La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mardi, deuxième épisode de notre série consacrée jusqu'à jeudi à l'impertinent absolu qu'était Oscar Wilde. L'impertinent absolu, c'est le titre de l'exposition qui se tient jusqu'au 15 janvier prochain au Petit Palais à Paris. Mais c'est surtout, évidemment, la réunion des deux caractéristiques qui vont faire la gloire et la perte de l'écrivain irlandais, sa soif de beauté sans mélange d'un côté et sa propension à dire ce qu'il pensait, tout ce qu'il pensait de l'autre. Nous commencions de l'évoquer hier avec Daniel Salvatore Schiffer et continuerons de le faire aujourd'hui. Alors un seul grand roman dans la bibliographie de Wilde, qui est mort, il est vrai, très jeune, à 46 ans, en l'année 1900, tout rond. Mais ce roman est un classique, Le portrait de Dorian Gray. Il a été retraduit dans une version non expurgée par Anatole Tomczak, que je recevrai demain en seconde partie d'une émission, au cours de laquelle Tsvetan Todorov nous livrera son analyse de la trajectoire, de l'œuvre et de la vie d'Oscar Wilde. Enfin, jeudi, avec Alain Jumeau, nous parlerons de son théâtre et en particulier de sa comédie Un mari idéal, avant de terminer notre semaine par des passages lus et commentés de textes de Wilde par l'universitaire Pascal Acquien. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la question centrale de son homosexualité. Je suis en compagnie de Charles Danzig, romancier, poète, essayiste, éditeur, traducteur de la pièce de Wilde « L'importance d'être constant » et auteur de l'introduction au catalogue de l'exposition du Petit Palais. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Il avait bien soin de cacher dans le creux de ses paumes ses doigts qui avait tellement souffert du hard labour, parce que vous ne savez qu'une part du hard labour, et de décortiquer les cordages de navires encore pleins de goudron. C'est atroce. Mais il était en cela, n'est-ce pas, l'ancien dandy, puisqu'il cachait ses anciens beaux ongles.
Bonjour Charles Danzig.
Bonjour Mathieu.
Vous connaissez, je pense, cette archive de Paul Fort qui date de 1953.
Oui, c'est une archive très étonnante. C'est là où Paul Fort raconte l'enterrement de Wilde au cimetière de Bagneux.
On va l'entendre tout à l'heure aussi.
Où il raconte que Lord Alfred Douglas s'est jeté dans la tombe, voilà, dans une scène d'hystérie.
Oscar Wilde, pour vous, c'est une vieille histoire. Vous dites dans votre essai, à propos des chefs-d'œuvre publiés chez Grasset en 2013, qu'on vous a fait le procès de Wilde alors que vous étiez encore un enfant, vous aviez 12 ans à cette époque-là.
Oui, oui, un peu, parce que j'avais une prof maoïste qui avait décidé d'instruire le procès de l'enfant de famille bourgeoise que j'étais. C'était une période un peu délirante et on m'a condamné, toute la classe s'est mise à me conspuer. Enfin, c'était une chose assez étrange qui s'est produite.
À vous conspuer, vraiment?
Oui, il y a eu
quand
vote,
vous rentriez.
Il y a eu vote et tout ça. Oui, oui, c'était un bon procès.
Qu'est-ce qu'on vous reprochait? De
je
l'arrogance,
pense la même
peut-être?
Oui, peut-être, probablement. Enfin, je ne suis pas arrogant du tout, mais les gens pensent que oui, il suffit de dire des choses en plaisantant et de ne pas avoir l'air pompeux pour être pris pour un arrogant. Enfin, bon, bref, il ne s'agit pas de moi.
Alors que c'était de la timidité, en réalité.
Je rougis.
On vous reprochait peut-être aussi... Et ça, vous le dites également dans cette préface, de ne penser qu'à lire et à rire. Alors à rire, sans doute, mais à lire Oscar Wilde, j'imagine.
Ah oui, je dois dire que j'ai découvert Oscar Wilde par un livre qui n'est probablement pas le plus connu, qui s'appelle Intention, qui est un recueil d'essais dialogués. Et c'est d'ailleurs pour ça probablement que mon premier essai était dialogué et qui s'appelle La guerre du cliché. Eh bien, j'ai été très très ébloui par Intention, où il expose sa philosophie de l'art. C'est le livre où il dit pour la première fois la nature imite l'art. Vous savez cette phrase qui a été tellement reprise. C'est un livre sous forme de dialogue qui avait été très bien traduit en français par un bon écrivain oublié qui s'appelle Hugues Rebel, et j'avais été ébloui par ça. Vous savez, quand on, en fait, je crois que On se découvre soi-même dans les grands écrivains. On les découvre eux, bien sûr, mais tout d'un coup, ils ouvrent en nous des choses qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti très très fort avec Oscar Wilde. Et immédiatement, je suis entré dans une espèce de boulimie de lecture. J'ai voulu tout lire de lui, tout lire sur lui. Enfin, exactement comme quand on est amoureux.
Donc vous vous êtes mieux compris vous-même en découvrant Oscar Wilde?
Je pense. Il faut faire attention aussi à ça, parce que les séductions des grands écrivains et que parfois ils nous attirent tellement vers eux que on ne voit qu'un aspect de nous-mêmes à travers eux et qu'on oublie le reste.
Est-ce que, quand vous avez traduit ensuite l'importance d'être constant, vous vous êtes un peu plus rapproché encore de Wilde, parce que traduire quelqu'un, c'est devenir un petit peu lui. Est-ce que vous êtes devenu, ou est-ce que vous avez eu envie de devenir Oscar Wilde?
Non, pas du tout. J'ai traduit un autre livre aussi qui s'appelle Aristotle, heure du thé, qui était la première traduction de ses chroniques et de ses articles en France, qui était, dans une de ses chroniques qu'on trouve l'origine de l'expression ne tirez pas sur le pianiste, car il a fait une tournée de conférences en Amérique quand il était très jeune et très insolent, et il est allé dans le Texas, et il raconte, en l'inventant peut-être, qu'il est allé dans un saloon où il y avait ce panneau-là, et je crois que c'est lui qui a inventé cette chose-là. En tout cas, quand je l'ai traduit, j'ai vu ses défauts. C'est ça qu'on voit mieux, c'est-à-dire quand on lit, on a beau lire attentivement, on pénètre moins dans la chair même de la prose ou de la littérature. Et j'ai vu, d'ailleurs ça n'est pas grave qu'il ait des défauts, j'en ai aussi et tous les écrivains en ont. Et ce sont des défauts humains d'ailleurs. Par exemple, j'ai mieux vu, parce que peut-être que notre œil amoureux s'attarde moins sur les défauts quand il lit que quand on est vraiment au cœur de la traduction, j'ai mieux vu sa passion un peu lourde des adverbes. J'ai un peu vu une manie de qualificatif qui est un peu trop ornementée par moment. C'est-à-dire que le défaut de Wilde que j'ai vu mieux en le traduisant, c'est le décoratif. Je pense qu'il y a, s'il a un défaut, et vraiment c'est pour aller chercher un défaut qui n'est pas si grave, c'est l'esthétisme et le décoratif. C'est-à-dire que parfois, il veut le joli pour le joli. Lui qui parlait tellement du beau, par moment, il se contente du joli. Le début du portrait de Dorian Gray, par exemple, qui est un chef-d'œuvre, le début du portrait de Dorian Gray est presque comique d'excès d'adverbes et d'adjectifs. Il décrit l'atmosphère, le soleil autour de la maison de Basil Hayward à Londres, avec l'odeur des fleurs, avec des adjectifs surchargés, des adverbes surchargés. C'était le côté décoratif, mais qui ressemblait un peu... Je crois que nos écrits ressemblent à nos corps. Et Wilde avait un corps un peu lourd. Et d'ailleurs,
exubérant.
Il faisait beaucoup de mouvements avec ça. Et puis, il portait des pochettes, des fleurs à la boutonnière. Et de temps en temps, dans son style, il y avait aussi des fleurs à la boutonnière.
Est-ce qu'il travaillait beaucoup ce style, selon vous?
Probablement. Je crois que ces défauts-là viennent d'un excès de travail et précisément de travail d'ornementation. Il est mieux quand il est spontané. Je trouve que Wilde est vraiment à son meilleur dans les dialogues. C'est vraiment, et c'est là qu'on voit aussi que notre littérature ressemble à nos corps et à notre façon d'être. C'était un véritable homme de conversation et d'esprit dans le meilleur sens du terme. Et c'est dans les dialogues qu'il est le plus éblouissant, y compris dans ses romans qui sont très dialogués.
Par ailleurs, vous avez collaboré, je le disais, au catalogue de l'exposition actuellement en cours Oscar Wilde, l'impertinent absolu, au Petit Palais, c'est donc jusqu'au 15 janvier. Est-ce qu'il y a une pièce, un tableau qui vous a plus intéressé qu'un autre?
Je peux vous en dire deux, Mathieu. Il y a une chose qui est très frappante et je crois qu'on n'avait jamais vu, qui est la carte du marquis de Queensberry, qui est la fameuse carte où Queensberry a traité Wilde de sodomite avec la faute d'orthographe,
sodomite. Voilà. Oui. Et ça, c'est très émouvant. Évidemment.
Voilà. Et ça, c'était resté dans les archives judiciaires à Londres. Moi, je l'avais jamais vu. C'est émouvant à voir. Ce qui m'a le plus frappé en réalité, ce sont les caricatures. C'est-à-dire que vous rentrez dans cette exposition, vous voyez immédiatement des caricatures et qui sont des caricatures immondes, qui sont des caricatures homophobes. Le mot n'existait pas, mais on voit Oscar Wilde déhanché avec des poignets cassés, des fleurs partout, des lèvres épaisses. Il est ridiculisé immédiatement et c'est très très frappant de voir que cet homme qui a commencé à publier en 1890, immédiatement, il est très jeune, il y a des caricatures homophobes et il tombe en 1895. L'Angleterre a mis 5 ans à faire tomber cet homme. C'est très très frappant et c'est très rapide. Et donc ces caricatures, il y en a beaucoup, m'ont frappé. C'était une méchanceté inouïe, c'est le premier sur qui on faisait ça.
On pourrait répliquer qu'il a cherché à se mettre en scène et à mettre en scène son personnage et que, d'une certaine façon, il a tendu le bâton pour se faire battre.
Certainement, mais pourquoi ça participe du préjugé de la société victorienne et de toute société, c'est que, par principe, un homme efféminé serait ridicule. Parce que efféminé, ça veut dire femme, et les femmes, c'est moins bien que les hommes. Donc, évidemment, un homme, c'est vrai, un homme efféminé, c'est pire que tout. Pourquoi est-ce qu'on devrait caricaturer un homme efféminé plutôt qu'un gorille, pourquoi est-ce qu'un homme efféminé est plus ridicule que l'Innoventura? Expliquez-moi ça, à part le préjugé de la société. Lui-même, effectivement, prêtait le flanc. Mais d'ailleurs, je pense que, il a fait son procès en diffamation au marquis de Queensberry, en partie pour ça aussi. Il devait être exaspéré de voir qu'on le caricaturait. Et d'ailleurs, très vite, il y a eu aussi un roman satirique où il a été moqué, et ça a été un roman qui a été un très grand succès. Donc il a payé très vite.
On va continuer de parler de cette question-là. Mais pour terminer sur l'exposition, Charles Dantzig, on découvre aussi Oscar Wilde, critique d'art. Bon, on savait déjà qu'il était critique d'art, mais là, c'est intéressant dans le sens où il y a le tableau et en dessous ce qu'il en a dit. Est-ce que quelque chose vous a choqué, et notamment le fait que peut-être un certain nombre des déclarations de Wilde par rapport à ces tableaux sont un peu à l'emporte-pièce? J'ai quelques exemples, si vous voulez. Quand il dit, par exemple, à propos d'un tableau de William Holman Hunt, « Comme étude de couleur, c'est superbe, mais il est difficile de s'intéresser humainement à cette paysanne égyptienne. » J'ai un autre exemple, au sujet d'un tableau, cette fois, de John Hodam Spencer Stanhope. « La couleur est un peu trop luxuriante, et on aurait éprouvé du soulagement à voir la jeune fille simplement vêtue de blanc. » Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de critique d'art quand on lit ces déclarations?
De critique, en tout cas. Et
de critique, oui, mais de salon, un peu.
Écoutez, d'abord, ce sont des extraits qui sont très astucieusement tatoués sur les murs du Grand Palais, donc ça n'est pas la chronique entière. La chronique fait plusieurs pages. L'emporte-pièce, moi, je suis pas tout à fait contre, parce que parfois, il y a des pièces à emporter. Il parle aussi de... On le voit, les tableaux qu'il critique sont excessivement critiquables. Quand vous entrez dans l'exposition et que vous voyez le merveilleux Saint-Sébastien de Guido Reni, qui est à l'entrée de l'exposition, il n'en dit que du bien, il a raison. Vous savez, il fonctionnait comme ça, et parfois, une certaine forme de partialité permet de faire comprendre les choses. Il me revient à l'esprit une phrase qu'il a dite sur le personnage de la petite Nell dans Dickens, où le personnage a des ennuis considérables, meurt, enfin, très larmoyant, et où elle dit, il faudrait vraiment un cœur de pierre pour assister à la mort de la petite Nell sans mourir de rire.
Nous avons été là-bas à l'église, je crois, à peu près 18 à 20, mais pas plus, et très peu de littérateurs. Il y avait son ami Ross, Robert Ross, venu d'Angleterre, et Lord Douglas. Ça nous faisait un contingent de 2 heures complet. Et quand nous sommes partis vers le cimetière, nous étions 13. Et quand nous sommes arrivés à Bagneux, à travers une petite pluie battante, nous n'étions plus que 6. Il est arrivé une chose tragique, là. Sur quoi nous ne comptions pas et qui était un peu héroïque-comique, plutôt. Lord Douglas prit de sanglots lorsque on déposa au fond de sa tombe, de sa fosse, Oscar Wilde. Il s'est jeté dedans. C'était très embarrassant, très ennuyeux, très bizarre. Nous avons cru d'abord qu'il avait glissé, mais pas du tout. Il s'est jeté sanglotant et faisant une sorte de Christ tombé, une croix sur le... Je lui ai repris la main, ainsi qu'un des fossoyeurs, et puis on nous a tirés par derrière, et enfin nous l'avons lui tiré tout boueux, et pendant il était assez, comme je le dis souvent, par des gens qui sont extrêmement élégants, il était un peu cigare de luxe, n'est-ce pas, et il était bien abîmé. Quand nous repartîmes, nous n'étions plus que ma femme, Madame Merrill, lui, le boueux, Douglas, Robert Ross et moi. Qui fait les 6 dont vous parlez. Nous sommes loin des enterrements de Hugo et aussi glorieux de Verlaine.
Paul Fort, donc, qui raconte l'enterrement d'Oscar Wilde et l'étrange attitude tout de même de Lord Douglas, qui fait peut-être preuve, Charles Dantzig, d'un peu trop de théâtralité, vous ne croyez pas ?
Est-ce que ça s'appellerait une drama queen par hasard ? Écoutez, c'est très...
Lui, il l'avait quand même bien abandonné, Oscar Wilde, son amant Lord Douglas.
Écoutez, celui qui s'est mal tenu dans l'histoire, c'est Douglas et c'est pas Wilde.
Oui, c'est bien ce que je dis.
Oui, il s'est très mal tenu, mais c'était proprement parlé, un hystérique. Non, ce qui est touchant aussi dans le son d'archives, c'est Paul Fort parlant au passé simple. Et ça montre comment, tout d'un coup, la langue écrite essayait de s'adapter à la langue parlée. C'était pas tout à fait les débuts de la radio, mais quand même, on parlait comme si on écrivait et nous partîmes. On dirait plus ça. Peut-être qu'on a tort. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais vous qui officiez sur France Culture, on ne l'a pas dit encore. Peut-être que vous devriez revenir au passé simple.
Passé simple.
Alors, vous avez intitulé votre préface à l'importance d'être constant, la première Gay Pride. Et ça nous permet de parler un petit peu de ce sujet si essentiel quand même pour Oscar Wilde, qui est l'homosexualité. Pourquoi ce titre, la première Gay Pride ?
Eh bien, parce que j'imagine que au moment du procès de Wilde, enfin, il faut dire que quand Wilde a été pris par les policiers, c'était en janvier 95, il triomphait à Londres, il avait deux pièces qui triomphaient en même temps à l'affiche, qui était une chose inouïe et qui ne s'était jamais vue, il avait Un mari idéal et L'importance d'être constant qui triomphait. Il est tombé dans la minute, on l'a amené, et quand il a été amené après, enfin pas dans la minute, quand il a fait son procès en diffamation, quand on l'a amené, le jour où il a été emprisonné, 600 homosexuels, pour autant qu'on puisse les compter, mais c'est Yeats qui raconte ça, ont pris le train de Londres pour Calais parce qu'ils fuyaient l'Angleterre, parce qu'ils avaient très très peur. Effectivement, ils se doutaient de ce qui allait arriver. Et d'ailleurs, on avait conseillé...
C'était la migration, mais voilà, à l'inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui.
C'est ça, c'était le Brexit, mais homosexuel. Et d'ailleurs, on avait conseillé à Wilde de partir. Il n'a pas voulu partir. Il y a comme une espèce de recherche de martyr bizarre, comme ça. Eh bien, j'imagine que, voilà, si par hasard, ces 600 homosexuels anglais arrivant à la gare du Nord à Londres auraient pu se trouver presque le même jour où Paul Verlaine et Charles Cros ont été chercher Rimbaud à la gare, et je me dis que tiens, symboliquement, ça aurait pu être la première Gay Pride.
Mais c'est peut-être aussi que cette pièce, L'importance d'être constant, c'est une moquerie des rapports hétérosexuels.
Oui, vous savez, je crois que le secret de Wilde, c'est que il a l'air d'un collabo et c'est un résistant. C'est-à-dire que c'est un auteur qui a l'air uniquement mondain, spirituel, léger, moqueur. Mais c'est beaucoup mieux que Noël Coward, c'est beaucoup mieux que Thierry Luron, qui ont d'autre part beaucoup de qualités. Mais Wilde, en réalité, il ne faut pas oublier que c'est un Irlandais et qu'il y a du sang anarchiste dans Wilde. Et toutes ces pièces, et comme vous le dites, L'importance d'être constant, sont parsemées de bombes de moquerie, non seulement sur les conventions sociales britannique de l'époque, mais aussi effectivement sur les comportements hétérosexuels de base.
Et, comme par exemple.
Enfin, tout est là. C'est-à-dire, tous les hommes sont ridicules, tous les hommes sont pompeux, tous les hommes institutionnels, tous les personnages institutionnels sont risibles et assez bêtes. Et
donc c'est moins tant l'hétérosexuel que la haute société, au fond.
Oui, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est les deux. C'est par exemple, il y a le personnage de Lady Bracknell, qui est ce si amusant personnage de tante de Constant, dit à un moment « Menteur, mon neveu Constant, impossible, il a étudié à Oxford ». Eh bien, ça, c'est le genre de choses qui n'ont l'air de rien, mais qui révèlent très typiquement les préjugés de la société victorienne.
Et les femmes, comment est-ce qu'ils les regardent dans cette société-là ? Est-ce qu'il est plus tendre avec elles qu'avec les hommes ?
Oui, je crois. C'est-à-dire que... En même temps, il est très difficile de parler de L'importance d'être constant comme d'une pièce réaliste. Là, on en parle comme, enfin, moi, j'en parle comme si c'était une pièce réaliste, mais c'est une féerie. C'est-à-dire, c'est une pièce d'abord très, très brillamment construite et faite et tout à fait improbable. Mais néanmoins, les femmes ont des meilleurs rôles car elles sont moqueuses. C'est elles qui organisent tout le temps, le cheminement de la pièce, et c'est grâce à elles que tout se passe. Les hommes sont beaucoup plus conventionnels et académiques.
Même si, à la fin de la pièce, ou à la fin d'un mari idéal, peut-être, il y a des jugements un peu à l'emporte-pièce sur le rôle des hommes et le rôle des femmes dans la société, là encore, et qui sont peut-être de leur temps.
Oui, mais ça, c'est pas lui qui le dit. C'est, je pense qu'il le dit par son contre-pied. C'est ses personnages. C'est comme quand, quand dans le portrait de Dorian Gray, il y a des conversations de salon qui sont tout à fait comme ça, où il fait dire des stupidités à ses personnages, mais c'est pas lui qui les prend en charge. C'est comme quand Proust fait parler Madame Verdurin. On sait bien que c'est pas Proust qui pense.
Alors, le 28 février 1895, alors que Wilde est donc en plein triomphe à cause d'un mari idéal qui remplit le théâtre de Haymarket, c'est ça ? Et de l'importance d'être constant, qui remplit, lui, le St. James Theatre. Voilà qu'arrive cette carte de visite du père de son petit ami, l'accusant de poser au Somdomite.
Alors, Somdomite,
il y a une
oui.
faute d'orthographe, je
il y a
crois.
Une faute d'orthographe. Et c'était donc le marquis de Queensberry qui aimait beaucoup la bagarre, car, comme vous le savez sans doute, le marquis de Queensberry avait codifier les règles de la boxe anglaise. Et c'était une très vieille famille, les Queensberry, qui était une famille à proprement parler de fous. Ils étaient tous fous, et d'ailleurs je pense qu'Alfred Douglas lui-même était fou. Dans un livre, Thackeray, l'auteur de Barry Lyndon, raconte dans un livre de mémoire qui n'a pas été traduit en France, qui s'appelle Les Rois Georges, que un ancêtre du marquis de Queensberry, le marquis de Queensberry de l'époque, était déjà connu pour donner des gifles aux gens dans la rue, pour être excessivement agressif. Donc il y a un gène d'agressivité et de bêtise profonde chez les Queensberry. Et donc, Queensberry a été déposé cette carte et il entrait là-dedans, je pense. Et c'est une des raisons aussi de la chute d'Oscar Wilde, cette espèce de scandale que l'homosexualité dérangeait la norme sociale. C'est-à-dire que quand même, Wilde, même s'il était de bonne famille, son père était un chirurgien connu et célèbre même à Dublin, sa mère était une poétesse, mais enfin son père n'était jamais que chirurgien, c'était pas l'aristocratie.
Et puis que irlandais peut-être.
Et que irlandais. Eh bien, tout d'un coup, cet homme avait l'insolence de coucher avec un fils de lord. Ça, c'était une chose qui scandalisait probablement beaucoup plus Queensberry que l'homosexualité de son fils, car d'autre part, l'autre fils de Queensberry était aussi homosexuel, ça, it runs in the family. Et l'autre fils s'est suicidé plus tard, car il avait été pincé, il avait couché avec le premier ministre. Enfin, celui qui allait devenir premier ministre, Rosebery. Donc, en fait, tout ça, le social se mélange à la sexualité. C'est une des grandes hypocrisies de l'Angleterre victorienne. C'est que l'Angleterre victorienne, on pouvait faire beaucoup de choses à condition de respecter les hiérarchies sociales et d'être caché. N'oubliez pas que c'est à cette époque-là qu'a écrit, qu'un aristocrate anglais anonyme a écrit 3000 pages d'un livre qui s'appelle Ma vie secrète, qui a été publié après sa mort avec grand succès bien des années après, où il raconte par le menu ses aventures sexuelles et il couche avec tout le monde et il fait des enfants aux bonnes, etc., etc. Et ça, c'est typique de l'hypocrisie victorienne.
Et jusqu'au petit-fils de la reine Victoria, le duc de Clarence, oui. Qui est exfiltré en Inde.
Oui, parce qu'il y a eu en 1889, on découvre un bordel de garçons, on découvre que le duc de Clarence y participait à ses orgies et que ça engageait des petits télégraphistes. Et en fait, ce qui choquait là aussi, c'était moins le bordel, enfin c'était le bordel, mais c'était aussi les petits télégraphistes. C'est que tout d'un coup, le petit-fils d'une reine couchait avec des petits employés.
Toujours est-il que suite à ce procès, Oscar Wilde est condamné à rien moins que 2 ans de travaux forcés.
D'abord, le procès, on peut se demander, en effet, c'est amusé, mais ne faites pas ça, Oscar, c'est certainement un piège que l'on vous tend. Queensberry l'avait provoqué avec une note à son club, a fait ce qu'on... Queensberry est un personnage terrible, et Wilde, contrairement à l'avis de tous ses amis, fait ce procès. Il y a dans, je crois, Cécile Grandmer, un passage de Gide, où il évoque une conversation avec Wilde 3 mois avant à Alger. Et où Gide, sachant que le scandale est déjà considérable et que Queensberry veut absolument faire éclater le scandale contre Wilde, le ruiner socialement, elle lui dit « Faites attention, Oscar ». Dit Gide, Wilde lui répondit d'une façon très mystérieuse « Non, il faut aller plus loin, André. Non, je ne m'arrêterai pas. Il faut aller plus loin, toujours plus loin. Et ce plus loin, en vérité, là où il s'est retrouvé, c'était C3-3, Géol. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait en lui? Est-ce que c'était le goût ultime de la provocation? Est-ce que, parce que c'est un dramaturge, c'est un auteur dramatique, il avait là une sorte d'intrigue complexe dont il était à la fois l'auteur et l'acteur principal, puisque il est interrogé, d'ailleurs perdu, au cours de cette scène judiciaire à l'Old Bailey. Est-ce que c'est ce désir, comme ça, de jouer, comme une sorte de roulette russe, sa vie dans ce procès, en se disant, ben, je serai quand même le plus habile, je suis si brillant, et finalement je ferai condamner le marquis de Queensberry pour avoir dit que j'étais homosexuel, alors que je le suis par la justice anglaise, que par ailleurs, qu'elle n'avait pas, j'imagine, une considération particulière. Est-ce que c'est ça qui l'a fasciné? Est-ce que c'est plus profond?
Robert Badinter au micro de Jean-Luc Hesse, c'était le 11 octobre 1995. Et c'est vrai qu'on peut se demander, Charles Danzig, pourquoi Oscar Wilde s'engage dans ce procès qui paraît perdu d'avance.
Je crois qu'il y a probablement deux choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un sentiment d'impunité est monté à la tête de Wilde, puisqu'après tout, il vivait comme il vivait, personne ne l'embêtait, et puis le succès considérable qu'il avait, et il s'est cru impuni. Donc il a été excessivement imprudent et même candide d'une certaine façon de faire ce procès. Et d'autre part, je pense que ça engage quelque chose de plus profond et qui est la honte. À la même époque, Marcel Proust, homosexuel, fait un procès à Jean Lorrain, le romancier, journaliste, lequel a insinué dans un article que Proust était homosexuel. Or, Jean Lorrain l'était. Ils font un duel. Quelle est l'espèce d'étrange admission de la règle générale de la société qu'un homosexuel fasse un duel à un homosexuel alors qu'il l'est, qu'il ne veut pas que ça se sache? Eh bien, Wilde, c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il avait fini... Vous savez, l'intérieur des placards est toujours très confortable. On finit par ne plus voir ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, il avait fini par croire que, effectivement, puisqu'il ne le montrait pas, il n'était pas homosexuel. Je pense que ça, et ça, c'était, il avait assimilé la honte. N'oublions pas que Wilde, dans Intention, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, a écrit un très brillant article sur la vérité des masques. Très brillant, très paradoxal, comme il le fait souvent, et très convaincant. Il pensait que la vérité était dans le masque. Il pensait que son masque cachait les choses. Et ça, ça participe, non pas de lui, c'est une forme de folie, mais qui est une folie imposée par la société. La société était inhumaine. Quand on est obligé de se cacher, ça pousse à des comportements aberrants comme celui-là.
Mais est-ce que la question un peu anachronique de la cause homosexuelle peut entrer en ligne de compte dans cette démarche?
Pour lui, vous voulez dire de sa part? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'il a pensé à... Non, je pense qu'il...
C'est pour lui, enfin.
C'est pour lui,
c'est-à-dire qu'il agit comme ça pour lui.
C'est-à-dire qu'il était tellement persuadé que son masque le cachait, que à l'intérieur de son placard, il était autre chose que ce qu'il était, c'est qu'il a pensé qu'il était réellement diffamé quand on le traitait de sodomite qu'il était. Donc, au fond, c'est même le contraire de la cause. Il entrait en plein dans le cliché, le comportement imposé par la société. Je pense d'ailleurs que Wilde est coupable. Il est coupable de faire ce qu'il a fait, mais il est coupable aussi vis-à-vis des homosexuels. Et ça, c'est une chose que j'aurais pu dire derrière dans ma préface et qui m'est venue assez récemment. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un martyr. Évidemment, ce qu'il a subi est ignoble. On a eu besoin de ça. On en reparlera peut-être. Mais en même temps, c'est à cause de ça qu'il a terrorisé tous les homosexuels anglais pendant très longtemps, que l'Angleterre a attendu, je crois, 1967 pour abolir les lois anti-homosexualité. Tous les homosexuels anglais étaient terrorisés, allaient vivre en Italie, à cause du procès.
Avec raison, parce que par exemple, des gens comme Alan Turing, dans les années 50, ont également subi un procès, castré chimiquement. Donc, ils avaient raison d'avoir peur quand même, les homosexuels
anglais. Oui, ils avaient raison d'avoir peur, mais la question que je me pose, c'est est-ce que la société n'est pas devenue encore plus impitoyable à cause de l'inconséquence de Wilde qui a fait ce procès? Si Wilde n'avait rien fait, qu'il était resté tranquillement à laisser cette espèce de vieux con l'injurier et s'en ficher, il aurait eu des triomphes et les homosexuels auraient eu une vie beaucoup plus confortable. Là, la société a vu qu'elle pouvait faire tomber un homme d'un grand talent et sinon de génie. Quand on voit quelqu'un d'un talent pareil tomber, la société se sent tout permis.
Mais du coup, faut-il ne rien faire et continuer de se cacher? C'est ça finalement la question
non,
qui est posée.
Bien sûr. Non, bien sûr qu'il ne faut pas. Et d'ailleurs, Wilde est allé au maximum de la provocation où il pouvait aller à son époque. Que pouvait-il faire de beaucoup plus? Verlaine, au même moment, écrivait des poèmes où il racontait à peu près ouvertement ce qu'il était. Mais c'était des poèmes, c'est lu par 100 personnes. C'est pas des pièces de théâtre qui sont vues par des dizaines de milliers de personnes.
Il faut peut-être rappeler aussi que dans les années 1870, alors que l'homosexualité était jusque-là considérée comme étant du libertinage, ça devient quelque chose qui est médicalement analysé et on commence à interner les homosexuels dans des asiles.
Oui,
donc il y a tout un contexte quand même aussi à ce moment-là.
Le mot apparaît à ce moment-là. C'est un mot autrichien qui est un mot médical et qui consiste à nommer une chose d'un mot qui désigne une maladie, en quelque sorte. Donc effectivement, l'état d'esprit général, et ces gens, d'ailleurs, pensaient plutôt bien faire, il s'agissait de désigner des gens qu'il fallait soigner. On sait très bien que les premières interprétations de Freud, aussi libérales qu'il ait été, c'était une chose où c'était une déviation qu'il s'agissait de soigner. Et tout ça, ça vient du fait qu'une vague de morale épouvantable s'est abattue sur le monde, à la fois médical, hygiéniste et moraliste, dans les années 1850 et au-delà.
Mais est-ce que ça n'a pas, ce durcissement, créé aussi une littérature nouvelle, et notamment une littérature nouvelle de l'homosexualité, une nouvelle façon d'écrire sur ce sujet?
Ça a créé une façon terrible d'écrire sur le sujet, car si vous voyez ce qui s'écrit de plus proche là-dessus, juste après le procès de Wilde, c'est Marcel Proust et le personnage de Charlus, et tout, en fait, le passage fameux de Marcel Proust où il dit « race maudite, race maudite ». Et ça, c'est Wilde et ce procès qui ont ancré ça. C'est une littérature du malheur.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Charles Dantzig, je vous présente Chloé Brindley du Matricule des Anges. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Merci de passer nous voir pour nous parler de ce que l'on peut découvrir au sommaire du Matricule des Anges, magazine de littérature contemporaine qui fait sa une ce mois-ci sur l'écrivaine mexicaine née en 1973, Guadalupe Nettel.
Oui, alors on a entendu tout à l'heure le passage de l'enregistrement sur l'enterrement et Guadalupe Nettel nous fait rôder dans son nouveau roman aussi autour du cimetière du Père-Lachaise. Comme toute une génération d'écrivains latino-américains et en particulier mexicains, elle est fascinée par Paris. Et c'est ce qu'on voit dans ce roman nommé « Après l'hiver ».
Alors c'est quoi ce roman, Chloé Brindley ?
Alors c'est une histoire assez douce amère à deux voix. Qui fait s'entrecroiser donc une étudiante mexicaine qui découvre la solitude à la française et un cubain à New York dont le rêve est d'être un robot. Voilà, et donc c'est une fable sur la possibilité de la rencontre amoureuse ou autre. Et elle témoigne non seulement d'une espèce d'exotisme parisien vu à travers des yeux latino-américains, mais aussi d'un entre-deux de l'auteur, puisque c'est une romancière qui est à cheval sur deux continents, entre le Mexique et la France, mais aussi qui a une histoire assez intéressante entre une carrière universitaire classique, on va dire, et un engagement plus révolutionnaire au Chiapas. Donc c'est aussi ce dont ça témoigne. Et on apprend dans l'entretien qu'elle nous donne que un défaut de vision peut devenir un outil d'écrivain puisque c'est sa vision proche de l'absence de vision qui lui fait porter une attention aux détails, aux manies les plus monstrueuses, maniaques du quotidien.
Alors une autre femme à la une du Matricule des Anges, c'est Marie Ndiaye, Chloé, auteure de La Chef qui sort chez Gallimard.
Oui, La Chef, roman d'une cuisinière, c'est un titre assez énigmatique pour celle qui nous avait laissé avec La Divine en 2013. Et c'est aussi une auteure qui aime beaucoup désamorcer l'idée de normalité, donc comme Guadalupe Nettel qui est exactement de la même génération. Et avec ce roman, elle revient sur une de ses obsessions littéraires qui est la cuisine. Mais ce n'est pas du tout la cuisine gentillette. Chez elle, c'est souvent synonyme de terreur, d'art de la cruauté. Elle cuisine des viandes, des sauces assez sanglantes. Donc voilà, âme sensible et végétarien, s'abstenir à tout prix.
Et en même temps, c'est un livre qui est peut-être plus apaisé que les précédents.
Oui, c'est beaucoup plus apaisé. Ça, c'est la surprise de la bonne surprise de ce roman. C'est-à-dire qu'à travers le portrait d'une cuisinière fictive, donc qu'elle invente, Marine Diaye retrace sa propre carrière littéraire dans un monde dominé par des hommes, assez difficile. Et elle révèle quels sont ses propres ingrédients littéraires. Elle aime peu le sucré, les démonstrations de force, etc.
Un peu comme dans la critique littéraire, qu'elle critique aussi, finalement, à demi-mot. Critique littéraire qui est peut-être un peu trop salée, selon elle.
Oui, alors je ne sais pas si elle est très salée envers Marine Diaye en particulier, mais en tout cas, elle s'en prend un petit peu au ton inquisitorial des journalistes et dit qu'elle préfère la pénombre des fourneaux à la gloire des journaux. C'est un peu ce pied de nez qu'on peut y lire.
Et puis pour changer totalement d'horizon, pour terminer, Chloé Brindley, deux variations sur l'utopie et la résistance politique.
Oui, alors pour finir, j'aimerais rapprocher deux romans qui ont l'air de n'avoir aucun rapport. D'un côté, c'est le premier roman très original de Thierry Froget, qui s'appelle « Sauf qui peut, la révolution » chez Actes Sud. Et de l'autre, le roman intitulé « La pièce obscure » d'Isaac Rosa, un auteur espagnol, cette fois-ci, chez Christian Bourgois. Et les deux interrogent un peu notre besoin d'utopie. Le premier dans une version un peu humoristique, le second dans une version plus sombre, puisqu'avec le premier, on se demande ce qui se serait passé si Danton n'avait pas été guillotiné et surtout si Jean-Luc Godard avait tourné un film sur la Révolution. Donc ça, c'est pour « Sauf qui peut la Révolution ». Et pour la pièce obscure, on découvre comment une panne d'électricité peut permettre de créer une communauté. Donc voici ces deux romans qui réfléchissent à l'utopie et qui permettent de répondre à ces deux questions dans des univers très différents.
Et que vous nous conseillez, Chloé, si on souhaite se procurer le Matricule des Anges, comment fait-on ?
Eh bien, on se rend dans tous les bons kiosques et librairies.
Et c'est tout, et on le trouve forcément. Merci, Chloé Brindley, à bientôt. Deuxième partie de cette compagnie des auteurs consacrée à Oscar Wilde sur France Culture. Et pour l'ouvrir, cette seconde partie, eh bien, un passage de cette pièce dont on a parlé déjà avec Charles Danzig, car il l'a traduite, l'importance d'être constant. Ici, non pas dans sa traduction, car cet extrait date de 1954, mais dans une interprétation de Jean Poiré et Madeleine Barbulé.
Vous avez toujours exercé sur moi une véritable fascination.
Ah bon, vraiment ?
Ah
bon ?
Oh, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Worthing, que nous vivons dans un siècle idéaliste. C'est un fait constaté chaque jour dans les journaux. Et mon idéal a toujours été d'aimer un homme prénommé Constant.
Ah,
il y a quelque chose dans ce nom qui m'incite à l'abandon, à la confiance.
Ah.
Dès qu'Algernon m'a appris qu'il avait un ami nommé Constant, j'ai su que je devais fatalement vous aimer.
Mais voulez-vous dire que vous m'aimez réellement?
Irréellement. Passionnément.
Oh, chérie, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en suis heureux.
Je m'en doute.
Mais si mon prénom n'était pas Constant, vous m'aimeriez de la même façon, n'est-ce pas?
Vous appelez bien Constant.
Mais bien sûr, je m'appelle Constant, mais je veux dire, en supposant que ce ne soit pas Constant, vous m'aimeriez de la même façon.
Enfin, Oh mon chéri, mais pourquoi vous perdre dans des spéculations métaphysiques qui n'ont, comme chacun sait, aucun rapport avec la réalité?
Non, pour vous parler franchement, j'ai jamais beaucoup aimé mon prénom. Je crois qu'il ne me va pas du tout.
Oh, comment il vous va à ravir? C'est le plus joli prénom du monde.
Oui.
Il a une musique propre, il émet des vibrations.
Oui, oui, en effet, il émet des vibrations. Mais il me semble, Gwendoline, chérie, qu'il y a des tas de noms, enfin, beaucoup plus poétiques. Je sais pas, moi, Jack, par exemple.
Oh.
Par exemple, Jack, c'est ravissant.
Oh, Jack, quelle horreur. Oh, non, surtout pas Jack.
Ah.
Non. Mais non, c'est un prénom commun, atone, sans résonance.
Ah oui?
Ah oui, tandis que Constant. J'ai connu énormément de Jack. Eh bien, ils étaient tous plus laids que la moyenne, sans exception.
Ah bon?
En outre, Jack est le diminutif de John, Je plains une femme mariée à un John. Non, le seul prénom vraiment rassurant, c'est Constant.
Formidable passage tout de même, Charles Danzig, de cette pièce. Vous vous souvenez d'avoir traduit ce moment-là? Vous l'avez traduit très différemment?
Non, probablement pas, je ne me rappelle pas très bien. Je voulais d'ailleurs en profiter pour dire que tout à l'heure, quand je disais que j'avais remarqué les défauts de Wilde en le traduisant, je voulais dire aussi, je voudrais préciser que ce qui se passe avec un grand écrivain, c'est que les passages merveilleux, on ne sait pas comment c'est fait. On a beau traduire, on a beau être dans le cœur du texte, eh bien ça reste, il y a quelque chose de miraculeux et il y a ça dans l'importance d'être constant. Cet aspect miraculeux, on ne sait pas comment c'est fait. Ça ne s'explique pas par de la mécanique. Et à propos de, en écoutant cet extrait, à propos du prénom Constant et de tout ce dialogue sur « il importe d'être constant », comme nous savons, le mot anglais est « earnest », c'est-à-dire c'est, ça veut dire « sérieux ». Mais la traduction de Constant est bonne. Il y a eu d'autres...
Ça a toujours été cette traduction-là?
Non. Jean Anouilh a fait une traduction de l'importance d'être constant et par son esprit réactionnaire et paradoxal qui n'était jamais content de ce qui se passait, il a voulu changer le prénom et il a choisi « aimer ». Il importe d'être aimé et ça ne marche pas du tout.
Ça change quand même beaucoup de
choses. Ça change beaucoup de choses et ça ne va pas du tout. Et en écoutant ce passage, je me proposais une nouvelle interprétation. Ça veut peut-être dire constant, earnest. Mon prénom, constant, il importe d'être constant. Ça veut peut-être dire il importe d'être hétéro.
Et c'est un jeu. C'est pas un prénom, alors ça marcherait pas pour la traduction.
Non, mais voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un jeu là aussi sur les masques, ce qu'on cache, ce qu'on ne dit pas, ça n'est pas son vrai prénom, ça n'est pas sa vraie sexualité. Et c'est une interprétation à laquelle je pense à l'instant, qui est peut-être fausse, mais qui est assez intéressante. On pourrait interpréter tout le personnage et le faire jouer comme s'il était comme Wilde, avec une apparence de folle perdue, et les filles lui parleraient comme s'il était hétéro, et ça voudrait dire, il importe d'être hétéro, d'avoir l'air.
Comme quoi on n'a pas fini, même quand on a traduit une pièce, de la comprendre à chaque fois de nouvelles manières.
C'est grâce à vous.
Est-ce qu'elle est jouée souvent en France, cette pièce, l'importance d'être constant, Charles
Danzig? Elle est jouée assez souvent. Ce qui est assez amusant, c'est que la postérité de Wilde a été tardive en France. C'est-à-dire qu'il est venu en France très vite, puisque c'était un... On en parlera peut-être tout à l'heure. Il a passé un très long temps sans être joué. Et la reprise qui a relancé Wilde, c'était Un mari idéal dans les années 80. Et je me souviens d'ailleurs qu'un ami anglais qui était journaliste ici me racontait avec beaucoup d'amusement qu'il avait reçu un coup de fil d'un producteur de théâtre américain de Broadway qui lui avait dit « Ah, il y a un type qui marche très bien à Paris, il a une pièce qui s'appelle Un mari idéal, tu pourrais me la traduire ». C'était une histoire de producteur assez amusante. Mais depuis, l'importance d'être constant est très, très souvent montée. Ce qui est assez amusant là, c'est qu'on a mis Poiret. Ça veut dire que la pièce a longtemps été considérée comme une pièce de boulevard. Moi, j'ai rien contre le boulevard, mais j'ai rien de très pour non
c'est
plus.
Quand même
c'est
une
beaucoup
comédie.
Mieux que ça. Oui, c'est une comédie, mais c'est une comédie qui se rapproche beaucoup plus de une pièce de Shakespeare comme la Comédie des Erreurs, par exemple, avec des croisements de personnages où il y a quatre personnages dont on ne comprend jamais ce qu'ils font. C'est beaucoup plus spirituel et fin qu'une comédie de boulevard où on claque des portes.
En tous les cas, qu'il soit joué beaucoup ou pas en France, on peut imaginer que le rapport de Wilde avec la France étant ce qu'il est, c'est-à-dire très proche, il y aurait eu dans notre pays une volonté quand même de le jouer beaucoup. On peut dire que Oscar Wilde a choisi la France. Est-ce qu'on peut dire que la France a rendu à Oscar Wilde, quand même sa tombe est au Père-Lachaise, enfin, est-ce qu'on peut dire que la France a rendu à Oscar Wilde ce que lui lui avait donné?
Pas tout à fait, mais elle ne s'est pas si mal tenu que ça. C'est-à-dire que d'abord, Wilde venait comme fils de famille irlandais, sa mère l'a... Ah, je peux dire une chose sur sa mère, Mathieu. Je pense que j'oubliais de dire ça tout à l'heure, qui est très important, c'est que je pense qu'une des causes des erreurs et du comportement de Wilde vient de ce qu'il a été trop aimé par sa mère. Les enfants adorés par leur mère ont un sentiment d'impunité vis-à-vis de la société qui est considérable. Je pense que ça fait faire des bêtises. Bref, sa mère...
Qu'est-ce qui vous fait penser à ça?
Eh bien, parce que j'y réfléchissais tout à l'heure, je me disais qu'une des causes du comportement aberrant de Wilde, de se penser impuni, on se sent impuni quand votre mère vous aime trop. Et ça, c'est une chose qui détruit les enfants pour la vie.
C'est une analyse psychanalytique ou pas?
C'est une analyse peut-être fausse, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pensais à ça. Vous savez, c'était une grande emmerdeuse, Lady Speranza, c'était le nom sous lequel elle signait ses poèmes, qui avait décidé que son fils était prodigieux et elle le considérait comme un dieu et lui a fini par se considérer comme ça. Toujours est-il qu'elle l'a amené à Paris comme fils de famille très vite. Il est venu tous les ans au moins une fois par an à Paris. Il parlait le français. Il a écrit en français sa pièce Salomé avec l'aide de Pierre Louis. Il a été fêté relativement vite. Il n'a pas été populaire, il n'était pas connu par le grand public, mais il y a eu un article dans le Figaro en tout à sa gloire alors qu'il était assez jeune. Et puis, il venait, on le voit dans le journal des Goncourt, enfin, il fréquentait...
Les Goncourt que vous n'aimez pas tellement, hein. Cette folle amère et corsetée d'Edmond de Goncourt qui n'a pas signé la pétition pour aider Oscar Wilde à sortir de prison. Ça, c'est une citation de vous, cette folle amère et corsetée.
On fera un jour, peut-être, Mathieu Garrigou-Lagrange, une émission sur les écrivains réalistes de cette époque-là et comment, à mon avis, ils ont été les premiers à préparer le fascisme des années 30. C'est une idée que j'ai. C'était des affreuses personnes, les Goncourt, très méchants, antisémites, homophobes, odieux. Leur journal est rempli de ça. Ça n'est pas un mystère, ce que je raconte. Et d'ailleurs, la façon dont ils parlent de Wilde dans leur journal est très méprisante. Moyennant quoi, Edmond de Goncourt était, à mon avis, une folle perdue qui était corsetée, comme je le dis, et qui était d'autant plus homophobe. Bref, au moment du procès, la France ne s'est pas mal tenu, c'est-à-dire qu'évidemment, à Londres, il a été abandonné immédiatement, ses pièces ont été retirées de l'affiche, on a été obligé, il y a eu une vente forcée de ses biens pour payer les frais du procès.
Ce qui est assez terrible, ça, y compris des affaires auxquelles il tenait particulièrement.
Évidemment, atroce. Et en France, une pétition a été organisée. La France était quand même un peu plus libérale, évidemment, l'homosexualité était interdite, mais c'était moins scandaleux qu'à Londres. Et une pétition a été organisée par Stuart Merrill,
qui était américain,
devenu français, et poète, un bon poète symboliste. D'ailleurs, dans l'extrait qu'on vient d'entendre de Paul Fort, il cite Madame Merrill, la veuve de Merrill, à l'enterrement, ou la femme de Merrill. Et Stuart Merrill a organisé une pétition en 95. Il est allé voir tous les écrivains français pour proposer qu'on fasse une pétition qu'on remettrait au gouvernement anglais. Et là, c'est là que les écrivains français ont commencé à mal se tenir. Il est allé voir les plus connus, donc Goncourt, comme vous citiez, qui a refusé de signer. Il est allé voir Victorien Sardou, le très élégant auteur de Madame sans gêne, qui se permettait d'avoir des jugements moraux et qui a dit que...
C'est une boue trop immonde pour que je m'en mêle de quelque façon que ce soit, aurait-il
voilà,
dit.
Voilà, exactement. C'est ce qu'il a dit. Tout ça a été rapporté par Stuart Merrill après dans La Vogue. François Coppée, le poète misérabiliste qui l'avait rendu milliardaire comme Houellebecq et à l'Académie française, a répondu d'une manière qu'il croyait spirituelle, qu'il signerait mais au titre de la SPA parce que c'était des mœurs d'animaux. Maurice Barrès, qui commençait déjà à quitter. Barrès était intéressant parce qu'il avait commencé du côté dandy, décadent, et puis il avait honte de ça, il se reprenait, il allait vers le nationalisme le plus dur, il a refusé aussi de manière très mufle. Et donc, la plupart des écrivains français connus sont mal tenus. Les seuls qui ont été bien, mais certains ont été bien, Octave Mirbeau, comme toujours, a écrit un article merveilleux de soutien à Oscar Wilde en disant qu'on le traitait fort mal. Maurice Donnet, qui est devenu connu après, qui n'était pas très connu à ce moment-là, a signé. Un autre écrivain qui était Hugues Rebel, qui était le traducteur français d'Intention dont je vous parlais tout à l'heure, a écrit un merveilleux article où il disait « Prenons les armes et allons libérer Wilde à la geôle de Reading ». Zola s'est tenu de manière un peu plus ambiguë, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien si on lui a proposé de signer, mais en tout cas, il n'a rien dit de positif. Zola était... Je pense que Zola ne pouvait pas attaquer sur tous les fronts, quoi. Il défendait les juifs, il pouvait pas en plus défendre les homosexuels. Mais il avait publié, Zola, quelque temps avant ou après, je me rappelle plus, les confessions d'un homosexuel italien qui lui avait été envoyé par cet homosexuel italien. Et il l'avait fait publier par un ami médecin. C'est pour revenir sur le côté médical des choses qui sortait à ce moment-là. Et Zola, n'avait pas de jugement très moral sur la chose, sauf qu'il trouvait que l'homosexualité était un désastre pour la famille.
Alors que Wilde avait quand même une femme et des enfants.
Exactement. Et donc la France, et à ce moment-là, évidemment, le cher Figaro, la presse étant scalée, c'est-à-dire que la presse est très souvent l'enregistrement des applaudissements extérieurs. Quand Wilde était applaudi, elle a fait, quelques années avant, le Figaro avait fait un article d'éloge, et là, le Figaro a fait un article infect pour se moquer de lui. Et puis, comme on sait, Wilde est revenu mourir en France, il a passé quelques temps à Dieppe, et il y a une chose très déchirante qui s'est passée quand il est arrivé à Paris. Il a vu André Gide, qu'il connaissait. lequel Gide d'ailleurs
qui était beaucoup plus jeune, hein,
qui était beaucoup plus jeune, oui, pas beaucoup plus, mais qui était plus jeune. Il a d'ailleurs écrit après un petit livre qui s'appelait In Memoriam, c'est l'auto qui s'appelait Oscar Wilde, sur ses souvenirs de Wilde. Et il le voit, je crois que c'était à la terrasse du Café de la Paix. Gide tout de même s'approche, Gide n'était pas un salaud, il s'approche, et c'est d'ailleurs Gide qui était très honnête, qui le raconte lui-même. Quand il a vu que c'était Wilde, pour éviter qu'on le voie à côté de lui, il s'est tourné, il s'est assis en face de Wilde pour que les gens qui passent dans la rue de dos ne le reconnaissent pas. Et Wilde l'a très bien compris, a été très très bouleversé par ça. C'est-à-dire,
c'est là qu'il dit, mais non, installez-vous plutôt face, qu'on puisse. Alors il dit pas pour qu'on voilà. puisse vous voir, mais pour, vous serez mieux.
Voilà. Et ça vous dit la somme considérable, perpétuelle et d'humiliation qu'a subi Wilde. C'est-à-dire que sorti de prison, il devait subir ça encore. C'était un véritable paria.
Et qu'est-ce que Gide alors disait de sa littérature, de la littérature d'Oscar Wilde?
Gide était un peu trop chafouin pour être très, très affectueux envers Oscar Wilde. Il a cru une chose que lui a dit Oscar Wilde parce que ça l'a arrangé. Ça, il le raconte dans son petit livre. Wilde, un jour, a dit, avant son procès et avant sa chute, a dit à Wilde, j'ai mis tout mon génie dans ma vie et pas dans mes livres. Et ça, Gide l'a répété, écrit, évidemment.
Avec beaucoup de plaisir.
Ça rend tellement service qu'un confrère vous dise ça, que Gide s'est empressé de répéter une chose pareille. Mais en même temps, Gide était homosexuel, enfin disons-le comme ça, mais il était protestant, il voulait faire une carrière d'homme moral qu'il était aussi. Il ne pouvait pas comprendre le comportement d'Oscar Wilde. Je vais vous en donner un autre exemple par l'exemple de Cocteau, ça s'est raconté par Truman Capote. Qui les a vus un jour à Tanger.
Ormina, sûrement. Ah ouais, à Tanger.
Et Gide était assis sur une murette avec sa cape de chevrier, comme ça, en train de lorgner les petits garçons arabes qui jouaient au football. Et puis Cocteau était là par hasard, il vient le voir, il le reconnaît, il lui parle. Et Cocteau, évidemment, comme partout, Cocteau aurait été dans une grotte avec des pithécanthropes, il aurait fait des mots d'esprit, des poésies, il aurait été exquis, charmant. Il fait ça à Gide, et Gide lui répond, taisez-vous, vous dérangez le pays. Eh bien, c'est tout à fait le genre de choses qu'il aurait pu dire à Oscar Wilde. Il ne pouvait pas tout à fait admettre des gens comme ça.
Le 14 février 1995, on est 100 ans après le succès de ces deux pièces, L'importance d'être constant et Un mari idéal. Et en Angleterre, on réhabilite finalement Oscar Wilde par le dévoilement d'une plaque dans le coin des poètes de l'abbaye de Westminster. Qu'est-ce que lui doit la littérature britannique? Qu'est-ce que doit à Oscar Wilde la Grande-Bretagne, au fond?
Eh bien, elle lui doit tout. Elle lui doit la révélation de son hypocrisie pendant toute l'ère victorienne. Donc, au moins, ça l'a obligé à être franche. Vous savez, aucun pays n'a de reconnaissance envers les écrivains. Malherbe nous l'a dit il y a bien longtemps quand il a dit « Un bon poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles ». Et au fond, l'Angleterre s'en fiche.
Mais vous croyez que les écrivains anglais sont dans un sillage qui serait celui d'Oscar Wilde pour un certain nombre d'entre eux?
Non, pas tellement.
Parce qu'on a l'impression que finalement en France, quasiment, qu'il est davantage révéré que de l'autre côté de la
Manche. Je pense que vous avez raison. D'une part, il n'est pas si anglais que ça, encore une fois. Il est irlandais, il ne faut pas oublier ça. Il est irlandais. Il a moins d'influence, et d'ailleurs, quand on pense aux écrivains homosexuels contemporains, aux écrivains qui se trouvent être homosexuels contemporains, ils ne sont pas du tout dans cette lignée-là. Mais Wilde a quelque chose d'extrêmement hors du temps, même dans son temps. C'est-à-dire, Wilde est, si je peux faire un peu de littérature comparée, est un écrivain de la restauration anglaise. Il y a une époque de la restauration anglaise où on écrivait beaucoup de ce qu'on a appelé des restoration comedies, qui étaient des comédies de la restauration où il y avait beaucoup, c'était vers 1700 comme ça, où il y avait des auteurs comme Congreve, qu'on connaît pas du tout en France et qui ressemblent beaucoup à ça. Eh bien, Wilde lui-même était très démodé à une certaine époque. C'est une espèce d'apax comme ça, Oscar Wilde, qui ne ressemble à rien d'anglais réellement.
Merci beaucoup, Charles Dantzig. On termine sur cette question de la postérité. Tout de suite sur France Culture, voici Jacques Bonafé, comme chaque jour pour sa lecture quotidienne, de textes poétiques.
Bonjour. Pour écrire un seul vers, Il faut se souvenir de 100 ans de sommeil et des vies qui précédèrent, de la piqûre des roses et de l'aïeul qui voulait voir la mer, de l'homme au large dos couvert de ventouses et de ses enfants effrayés par les méduses. Des objets magiques et des formules où s'enroulent des fleurs autour des lettres gothiques. Puis, abandonné à son sort, cet homme en nous qui se noie dans ses souvenirs, pour renouer avec la magie sans accessoires et la jonglerie sans rien, mais avec des gestes suspendus en l'air, et la réalité qui se retourne comme un gant, avec les êtres et les choses, attirant les mots comme des aimants. Ces conseils très mystérieux nous viennent du poète Gérard Massé. Pourquoi le livre de poche, poésie pour la poche, se nomme « Bois dormant » ? Qu'est-ce qui est censé se réveiller en nous ? La postface de Jean Roudan nous dit « Le propre des livres poétiques de Gérard Massé est de constituer des avant-mémoires. Notre mémoire est alimentée des récits qu'on nous a faits quand nous étions enfants. Nous en avons perdu le détail, mais nous en conservons la couleur et la musique. Sur le tard, on cherche à retrouver celui qu'on fut pour qu'il témoigne de l'honnêteté de celui qu'on est. Établir rétrospectivement qu'on a bien été là où on devait être, parce que tout de même, selon le rappel de Mallarmé, demeure une incertitude. Quand l'œil aura tout vu, mon corps sera creux comme l'arbre du délire où loge le hibou à faire peur. Je coucherai dans une horloge à la dérive, à la fin fendue par une pierre, pour couler sans fond dans le troisième décan de décembre. Plombé par le sommeil, la chute le long de l'œsophage mène aux poubelles de la mémoire, en pourriture sous la langue morte elle-même prise dans la rotative affolée du sens, salivant pour rien le poème papier mâché, le papier des forêts permises où les ossements montraient la route, où maintenant, réduits en poudre, ils lavent les cerveaux pour de nouvelles morts à 6 pieds sous terre sous une montagne de songes, ceux de l'or. Autre poème dans Promesse, Tour et Prestige chez Gallimard. Les mots sont des bulles d'air, comme celles qu'ont sous les pattes les insectes qui marchent sur l'eau. Christ a régné pour qui la traversée du lac n'a rien d'un miracle. C'est l'ordinaire des jours quand il faut chercher la nourriture, qu'aucun dieu ne multiplie, quand il faut pondre et mourir avant la tombée de la nuit, cette nuit d'été où les hommes crédules se mettent à chanter. J'appelle Amazonie la région de l'esprit où tout respire sous une canopée que je n'ai pas connue, mais j'ai tant lu au milieu des fougères et sous les feuilles d'un philodendron qui filtrait la lumière, emporté par mon livre qui battait de l'aile dans le grand cycle du carbone et de la chlorophylle, que le soleil tamisé se confondait avec la lampe. Il y avait là de quoi faire un poète et je ne suis qu'un rêveur en prose, dit Gérard de Nerval, cité par Gérard Massé.
Jacques Bonafé, qui lisait des poèmes de Gérard Massé dans la compagnie des auteurs. Charles Dantzig, votre traduction de l'importance d'être constant est toujours disponible chez Grasset. Puis je signale la parution le mois dernier de votre ouvrage « Les écrivains et leur monde ». C'est dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Cette émission est réalisée cette semaine par Christine Digère. À la console, il y avait Bruno Gagnère-Fontanille et à la préparation Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Demain, Tsvetan Todorov et Anatole Tomsak nous parleront du rapport entre l'art et la vie chez Oscar Wilde. Il sera encore question d'absolu, d'art de vivre et bien entendu du portrait de Dorian Gray. Tout de suite sur France Culture, c'est les sciences, la méthode scientifique avec Nicolas Martin.